présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Coup de théâtre au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta reconnaît qu'il veut négocier avec les djihadistes. Une ligne rouge semble avoir été franchie. Les explications d'Omar Ouamad dans un instant. Nous rejetons le plan israélo-américain. À la tribune de l'ONU, le président palestinien Mahmoud Abbas a balayé l'initiative de paix de Donald Trump. La correspondance de Grégory Phillips. En France, Emmanuel Macron annonce une série de mesures en faveur des handicapés, avec notamment la promesse de scolariser tous les enfants souffrant de handicap. Les associations attendent du président qu'il respecte ses engagements. Nous verrons cela avec Laura Dulieu. La polémique autour des Césars du cinéma français. 200 personnalités critiquent l'action du président de l'Académie des Césars, Alain Terzian. Dossier suivi par Adrien Toffolé. Mais on va commencer ce journal par un hommage à Claire Bretéché, celle qui est sans doute la plus grande dame de la bande dessinée française, est morte hier à l'âge de 79 ans. Avant d'évoquer la carrière de la créatrice des Frustrés et d'Agrippine, je vous propose d'écouter la voix de Claire Bretéché. C'était en 1974 sur France Culture. Elle expliquait pourquoi ses personnages n'étaient pas forcément très sympathiques, ni d'ailleurs très beaux.
Et j'arrive pas à faire des gens sympathiques. C'est ça, c'est incroyable. J'ai essayé et ils tournent toujours au vinaigre. Ce qu'on me reproche beaucoup, c'est de faire des femmes laides, parce que on considère que les femmes en dessin ne doivent jamais être laides. D'ailleurs, en bande dessinée, ça a longtemps été une règle absolument intangible. Il faut pas faire de femmes laides, d'abord parce que les lecteurs supportent pas, ça les traumatise, et puis parce que les femmes, à supposer qu'elles lisent la bande dessinée, ce qu'elles font grâce au ciel maintenant, ça les traumatise aussi parce que la femme est un être séraphique et beau par définition. Alors donc, fallait pas faire de femmes laides. Ça, c'est, et si vous lisez des bandes dessinées classiques, genre Astérix, vous verrez que les filles sont toujours traitées d'une façon Walt Disney, gentille, jolie. Comme dans Walt Disney d'ailleurs. Enfin, pensez à Blanche-Neige ou Cendrillon. Par opposition au personnage masculin, c'est toujours des pépés. Alors ça m'a toujours profondément énervée parce que, d'une part, moi, je me trouvais moche et d'autre part, je trouvais que la genre féminine n'était pas particulièrement réussie par rapport à la genre masculine.
Voilà, Claire Bretéché en 1974 dans l'émission Le Temps Libre sur France Culture au micro de Harold de Portenoir. Jean-Christophe Augier, bonsoir.
Bonsoir.
Claire Bretéché était une pionnière de la bande dessinée féminine. Elle avait été couronnée du Grand Prix de la ville d'Angoulême en 1982.
Bretéché honorée moins de 10 ans après l'ouverture du rendez-vous mondial de la BD, cela dit la place particulière que ce monument de la bande dessinée a très vite occupé. Bretéché, c'était un sacré coup de crayon d'apparence très simple, mais toujours juste pour exprimer une attitude, une posture, un sentiment, une lassitude souvent. Bretéché avait un sens de l'observation assez unique. Elle disait « Je passe mon temps à regarder les gens, leur tronche, leur allure. » Mais elle ajoutait « Mon dessin relève plus du sentiment d'appartenir à un groupe social et mes personnages se moquent beaucoup de mes propres travers. » Ces personnages, profs, médecins, artistes, mères de famille, appartenaient à la gauche gentiment branchouille, un peu intellectuelle des années post 68, celle qui lisait Le Nouvel Observateur ou paraissait sa série Les Frustrés, pleine de quadras écroulés dans leur canapé. Bretéché leur tendait un miroir à peine déformant. En 1976, Roland Barthes l'a qualifiée de meilleure sociologue de l'année. Elle avait commencé dans Spirou, avait décollé dans Pilote, seule femme autour de la table de rédaction. Elle en était partie pour fonder L'Écho des Savanes avec Gottlieb et Mandrika. Elle a aimé mettre en scène les femmes. La première s'appelait Cellulite, histoire de dire que cette princesse avait les mêmes problèmes et les mêmes états d'âme que toutes les autres. La plus connue est une ado prénommée Agrippine qui passe son temps à dire que le monde entier lui en veut. Les parents font vraiment fèche les meucs. Bretéché s'était inventé un vocabulaire intemporel, un dialecte qui moquait toutes les modes et elle ne mâchait pas ses mots. Ce soir, la profession lui rend hommage. Pénélope Bagieux, Catherine Meurice ou Dorothée de Montfred disent lui devoir beaucoup. Les garçons ne sont pas en reste, à l'image de Riyad Satouf, dont la jeune Esther revient chaque semaine dans l'Obs comme une petite sœur de l'Agrippine de Bretéché.
Jean-Christophe Augier, merci. Retrouvez sur franceculture.fr notre dossier spécial consacré à Claire Bretéché. À quel jeu joue le président malien? Dans un entretien accordé hier à RFI et France 24, Ibrahim Boubacar Keïta admet l'existence de contacts avec les djihadistes qui multiplient les attaques meurtrières dans tout le Sahel. Des propos qui interviennent au moment où la France renforce l'opération Barkhane. Il y aura bientôt 5100 soldats français déployés dans la bande sahélienne. Le chef de l'État malien choisit donc la voie du dialogue avec un certain nombre de chefs djihadistes. Option catégoriquement écartée par la France, au moins officiellement. Les explications d'Omar Waman.
Ce dialogue est l'une des dernières chances de sortir le Mali de la spirale de massacres interethniques entre Peul et Dogon, sur fond de présence terroriste. Des pourparlers réclamés par une grande partie des Maliens excédés par ces tueries à répétition. En reconnaissant une démarche d'approche de ces groupes djihadistes, le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, a brisé un tabou. Une première après 8 années de guerre sans issue. Ibeka, au micro de nos confrères de RFI et de France 24.
Le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel. Il est temps que certaines voies soient explorées. Mais je ne suis pas naïf du tout. Nous avons au Mali tenté la gageure d'un dialogue national inclusif. Pourquoi pas essayer le contact avec ceux-là dont nous savons qu'ils tirent les ficelles de la situation au Mali.
Le président malien vient ainsi de mettre fin à une stratégie militaire fondée sur le rejet de tout dialogue avec les djihadistes comme le prédicateur radical Peul, Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina et le chef de guerre Touareg, Iyad Agrali. Deux acteurs majeurs à l'origine de la déstabilisation du Mali. Mais pour Ibeka, combattre les groupes djihadistes et dialoguer avec eux n'est pas antinomique et de prendre les exemples de l'Algérie et de l'Afghanistan où les processus de réconciliation ont permis de faire baisser drastiquement le nombre de victimes civiles.
Omar Waman, merci. Et justement, l'une des réponses à la crise sécuritaire que traverse l'Afrique est économique et c'est le thème d'un débat aujourd'hui à Paris à l'initiative du Cercle des économistes. Autour de la table des représentants de gouvernements européens, des ambassadeurs africains, des économistes et des chefs d'entreprise. Diane Berger, bonsoir.
Bonsoir.
Le but de cette réunion, réfléchir à une nouvelle manière d'investir sur le continent africain.
Parce qu'en effet, les participants de cette rencontre voient dans l'Afrique le moyen de faire un coup gagnant-gagnant, permettre le développement du continent et grâce à cela, relancer l'économie mondiale menacée de ralentissement. Mais pour y arriver, il faut réaliser ce que Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, appelle carrément une rupture idéologique.
Le monde a vécu sur l'idée que le développement était régi par une sorte de religion qui s'appelait le consensus de Washington et qui consistait à dire que pour développer un pays, il suffisait de le faire s'insérer le plus possible dans le marché mondial. Ça signifiait supprimer toute politique de tarifs, toute politique de subventions, détruire les cultures vivrières, etc., etc.
Ce consensus de Washington, il souhaite le remplacer par celui dit de Dakar, du nom d'une conférence qui s'est tenue au Sénégal il y a 2 mois, une vision soutenu par Mario Pezzini, le directeur du Centre de développement de l'OCDE.
Dans le cas de l'Afrique, c'est évident qu'il y a des énormes opportunités de développement, mais elles ne sont pas exploitées, entre autres parce que le niveau d'investissement n'est pas suffisant. Alors, ce que nous on pense, c'est que ça serait approprié d'avoir une table appelée par l'Union africaine, autour de laquelle vont s'asseoir les pays africains, mais aussi les partenaires en Afrique. Il faut créer une coordination entre tout ça. Et la coordination ne peut connaître par des rencontres, des discussions, construire des bases communes, une vision, une stratégie.
Mais Mario Pezzini le reconnaît, l'Afrique compte 54 pays, aucun schéma économique ne fonctionnera pour tous et il faudra donc laisser une grande place au cas par cas.
Diane Berger, merci. Plusieurs milliers de Palestiniens ont manifesté aujourd'hui en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, une foule venue dénoncer le plan de paix de Donald Trump présenté le 28 janvier dernier. Ils étaient 5000 à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne, un rassemblement en soutien à leur président Mahmoud Abbas qui a pris la parole cet après-midi à l'ONU et sans surprise, le président palestinien a rejeté en bloc le plan de paix américain pour le Proche-Orient. Grégory Phillips.
Devant les ambassadeurs des 15 pays membres du Conseil de sécurité.
Je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Mahmoud Abbas.
Mahmoud Abbas prend la parole et d'emblée rejette au nom des 13 millions de Palestiniens, dit-il, les propositions israélo-américaines. Le président de l'autorité palestinienne brandit alors la carte présentée il y a 2 semaines par Donald Trump et prévient « Qui voudrait d'un tel État ? Jérusalem-Est ne fait même pas partie de la Palestine et cela nous suffit pour refuser ce plan », dit encore Mahmoud Abbas, qui évoque aussi une situation d'apartheid. Un peu plus tôt, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danone, avait minimisé l'importance de la prise de parole d'Abbas devant les Nations Unies. C'est une chose de venir ici prononcer un discours théâtral et très long devant les caméras du monde entier, puis de rentrer à Ramallah. Le président Abbas ferait mieux, plutôt que de venir à New York, d'aller à Jérusalem, comme à l'époque Sadat était venu prononcer un discours devant notre Parlement. La délégation palestinienne qui finalement ne demandera pas au Conseil de sécurité de condamner par une résolution le plan américain, faute de garantie d'avoir les 9 voix nécessaires pour le faire.
Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis. Le coronavirus chinois a franchi hier une étape aussi symbolique qu'inquiétante. L'épidémie a fait plus de 1000 morts en Chine continentale, 1016 très exactement, avec 108 nouveaux décès en 24 heures, le plus lourd bilan quotidien enregistré à ce jour. Face à la crise, de nombreuses compagnies aériennes occidentales ont interrompu leur liaison avec la Chine. Air France, par exemple, assurait 26 vols hebdomadaires vers les aéroports chinois, dont 3 vers Wuhan, le foyer de l'épidémie. Air France qui n'envisage pas de rétablir ses liaisons avant la mi-mars, comme nous le précise sa directrice générale Anne Rigail.
Il y a bien sûr un impact important puisque la Chine représente 4,5% du chiffre d'affaires d'Air France KLM. Si effectivement, ce que personne ne souhaite, la situation devait perdurer, nous redéploierons bien sûr nos capacités vers d'autres marchés. Alors nous avons un réseau très équilibré vers tous les autres continents et donc je pense que ce sera une répartition équilibrée. Alors bien sûr, nous souhaitons que la situation soit la plus courte possible dans la mesure où la Chine est un marché touristique important vers la France. La Chine est également l'usine du monde, donc elle touche de nombreux business et donc aura des répercussions sur le transport des hommes, des femmes et des marchandises. Donc nous pensons que cette situation, de toute façon, ne peut pas perdurer très longtemps. Mais nous serons agiles et surtout, nous écouterons les recommandations sanitaires et nous prendrons nos décisions avec toujours la priorité pour la santé de nos personnels et de nos clients.
Anne Rigail, directrice générale d'Air France, elle répondait à Hakim Kasmi. Au Royaume-Uni, Boris Johnson se lance dans une politique de grands travaux d'aménagement. Le Premier ministre britannique a validé aujourd'hui un projet pharaonique, la construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse qui doit relier Londres au centre et au nord de l'Angleterre. La facture devrait dépasser les 100 milliards de livres, plus de 118 milliards d'euros. Antoine Gignot, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Londres, Antoine, ce projet baptisé High Speed 2 est loin de faire l'unanimité outre-Manche.
Et évidemment, c'est le montant de la facture qui fait grincer des dents. C'est 2 fois l'estimation faite par les experts en 2015. Les terrains nécessaires coûtent plus cher que prévu. Il faut construire des ponts, détourner des rivières. Et pourtant, pas question de suspendre les travaux. Boris Johnson résume la situation en une phrase dans une émission pour enfants. Quand vous tombez dans un trou, dans un gouffre financier de cette taille-là, la seule chose à faire, c'est de continuer de creuser. Pour éviter le gaspillage de ces dernières années, le Premier ministre va tout de même nommer au gouvernement un responsable des travaux qui suivra le dossier à plein temps. Mais même si tout se déroule normalement, le premier tronçon vers Birmingham ne verra pas le jour avant 2031 et il faudra attendre 2040 ou au-delà pour voir le train à grande vitesse aller jusqu'en Écosse à Glasgow. Pour faire taire les critiques, enfin, de ceux qui craignent que la ligne n'aspire tout l'argent de l'État au détriment des transports locaux, Boris Johnson promet aussi 6 milliards d'euros sur 5 ans pour développer les réseaux de bus, les voies de contournement des embouteillages et les pistes cyclables.
Antoine Gignot en direct de Londres, merci. Les Français doivent tous se mobiliser pour aider les 12 millions de handicapés que compte notre pays. Discours martelé par Emmanuel Macron ce matin en conclusion de la conférence nationale sur le handicap. Parmi les mesures prioritaires annoncées par le président, il y a l'objectif d'offrir une scolarisation à tous les enfants handicapés à la rentrée de septembre. Il y a aussi la création d'un 1000 de places supplémentaires dans les établissements spécialisés. Il y a enfin la mise en place d'un numéro d'appel unique, le 360, pour répondre à l'inquiétude des familles. Laura Dulieu, bonsoir.
Bonsoir.
Les associations d'aide aux handicapés attendent maintenant d'Emmanuel Macron qu'il respecte ses engagements.
Oui, la plupart saluent l'ambition d'Emmanuel Macron qui a été très concret pendant son discours. Des annonces saluées notamment par Jean-Louis Garcia, le président de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés.
Il a abordé un certain nombre de sujets de façon très très claire, le chômage, la question des aidants, le lien avec les retraites, tout ça ce sont des inquiétudes fortes que nous avons. C'est un bon début.
Des promesses ambitieuses donc, mais avec un délai également ambitieux. Aucun enfant laissé de côté en septembre, ça veut dire 8000 enfants pour lesquels il faut trouver une solution en 6 mois. Et ce notamment en recrutant des aidants et donc rendre ce métier plus attractif et moins précaire. Un chantier colossal qui laisse Yvonique Pic dubitatif, c'est le président de la Fédération des malades et handicapés du Pas-de-Calais.
Il y a beaucoup de formations à faire. D'abord, trouver des AVS, parce que c'est des emplois précaires. Ça a beau être payé au SMIC, mais ça reste toujours des contrats à 25 heures semaine. Ça sera toujours un manque de moyens. Ils ne seront jamais prêts pour la rentrée.
Et enfin, parmi les plus grosses déceptions, il y a le handicap psychique. Seul l'autisme a été évoqué avec l'extension du forfait diagnostic des enfants jusqu'à 12 ans. Selon Marie-Jeanne Richard, présidente de l'UNAFAM, l'Union des familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques, même avec les mesures pour l'autiste, on est très loin du compte.
Il faut absolument en parler parce qu'ils partent de extrêmement loin et il est urgent qu'ils aient les réponses à leurs solutions. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont des problèmes psychiques, il y a des adultes qui ont des problèmes psychiques, 3 millions de personnes. Et excusez-moi, mais je regrette vraiment très fort qu'on n'ait pas parlé d'eux.
Et autre point d'interrogation, le financement, les moyens dédiés aux annonces d'Emmanuel Macron restent pour l'instant assez flous.
Laura Dulieu, merci. Et l'on reparle de ces mesures d'Emmanuel Macron après ce journal. Dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin recevra notamment la secrétaire d'État Sophie Cluzel. On ouvre une page politique dans ce journal pour revenir sur l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée. La commission spéciale doit terminer ses travaux ce soir au Palais Bourbon. Avec un constat, la discussion s'est enlisée au gré des 22 000 amendements déposés par l'opposition. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir.
19 000 de ces 22 000 amendements ont été déposés par un seul parti, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.
Et en déposant ces 19 000 amendements, les Insoumis ont volontairement paralysé le travail de la commission spéciale et gagné la bataille de la communication, car depuis 9 jours maintenant, les députés de la France Insoumise monopolisent les paroles, profitant de chaque minute accordée par amendement pour demander le retrait du projet de loi, une stratégie d'obstruction clairement assumée par Clémentine Autain, Adrien Quatennens ou encore François Ruffin.
Vous êtes en train de faire adopter quelque chose qui risque d'être inconstitutionnel, comme l'a tout à fait et bien explicité le Conseil d'État.
C'est vous qui défendez un projet de loi en contradiction avec les engagements présidentiels et qui est minoritaire dans ce pays.
Ce qui abîme le plus le Parlement, c'est quand il y a des votes qui sont des votes de godillots.
Alors, en privant de parole les autres oppositions au projet de loi, socialistes ou encore républicains, les députés de la France Insoumise apparaissent comme les premiers opposants au texte réduit au silence. La majorité ne peut que dénoncer un hold-up démocratique, un zadisme législatif. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, cette séquence en commission spéciale n'est qu'un tour de chauffe, car sa mère des batailles commencera lundi prochain dans l'hémicycle et les Insoumis ont prévu de déposer une nouvelle salve d'amendements pour les 2 semaines de débat en séance publique. L'objectif est d'obliger le gouvernement à passer par le 49-3 en faisant adopter la loi sans vote, ce qui renverrait alors Emmanuel Macron à une présidence jupitérienne et renforcerait l'impopularité de l'exécutif à quelques jours des élections municipales.
Pierre Neveu, merci. La 45e cérémonie des Césars le 28 février prochain s'annonce particulièrement mouvementée. Il y a bien sûr la polémique autour des 12 nominations pour J'accuse, le dernier film de Roman Polanski. Il y a aussi cette tribune signée dans le journal Le Monde par 200 professionnels du cinéma français. Adrien Toffolet, bonsoir.
Bonsoir.
Ces personnalités multiplient les critiques contre l'Académie des Césars et son président, le producteur Alain Terzian.
En fait, tout commence à la mi-janvier quand l'Académie des Césars refuse que Virginie Despentes et Claire Denis soient les marraines de 2 des candidats aux nominations pour les Césars du meilleur espoir. Une décision opaque et discriminatoire selon plusieurs réalisateurs et acteurs qui remettent alors en question le fonctionnement même de l'Académie. Elle est constituée de 4700 professionnels du cinéma qui payent pour y adhérer. Ils ont un seul rôle, choisir les nommés et lauréats pour chaque récompense. Tout le reste reste, le fonctionnement de l'institution, l'organisation des événements, est géré au-dessus par l'Association pour la promotion du cinéma, avec un conseil d'administration présidé par Alain Terzian. Problème, ils sont 47, membres à vie, ceux qui ont reçu un Oscar aux États-Unis, peu nombreux, et puis des personnalités cooptées, les derniers sont arrivés il y a plus de 20 ans. Bref, un petit monde élitiste et fermé, disent les signataires, à l'intérieur du petit monde du cinéma, dans lequel les choix importants sont à la merci des affinités et des égos de quelques-uns et qui disposent par ailleurs d'un budget dont la transparence fait défaut. Malgré les excuses d'Alain Terzian ce week-end et sa promesse d'instaurer la parité au sein de l'institution, les signataires réclament plus en réalité une refonte des statuts qui permettrait, comme pour les Oscars, à tous les membres d'élire une gouvernance pour une durée donnée. Alain Terzian a demandé tout à l'heure qu'un médiateur soit nommé pour tout remettre à plat et vite avant la cérémonie des Césars dont vous parliez à la fin du mois, car à ce moment-là, effectivement, il fera face à une autre fronde, celle des 12 nominations pour J'accuse de Roman Polanski.
Adrien Toffolet, merci. La météo demain restera très perturbée. 9 départements sont en vigilance orange dans le sud-est et dans le nord-ouest. À noter que le vent attise des incendies en Corse et dans le sud de l'île. Les 1400 habitants des villages de Tonia et Sarry-Solenzara sont confinés sur ordre de la préfecture. Ailleurs en France, un temps pluvieux dominera avec de la neige en montagne. Température minimale entre 1 et 12 degrés du nord au sud. Les maximales seront comprises entre 5 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.